Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Nous sommes en train d'étudier la vie d'Abraham. Et je vous rappelle que Dieu a écrit d'avance votre destinée. C'est-à-dire tout ce plan extraordinaire qu'il a. C'est déjà écrit d'avance. Vous n'êtes pas là par hasard. Mais Dieu a choisi chacun d'entre nous. Dieu connaît chaque être humain sur cette terre. Et pour chaque être humain, Dieu a écrit quelque chose dans le ciel. Pour que ça se réalise au travers de chacune de nos vies. Mais pour que ça se réalise, vous devez jouer votre part. Je dois jouer ma part. Chacun doit jouer sa part. Nous avons étudié la vie d'Abraham et nous en sommes dans cette étude. Et nous avons remarqué qu'Abraham est l'homme qui a reçu la plus grande des promesses de l'histoire de l'humanité. Mais ça ne s'est pas passé tout seul. Si la Bible rend témoignage à cet homme, ben ça ne s'est pas fait tout seul. Il a eu sa part à jouer. Ce n'est pas une petite part. Nous avons notre part à jouer et ce n'est pas une petite part non plus. Donc je ne vais pas revenir trop sur ce qu'on a déjà vu. Mais il y a des clés qui nous permettent de réussir notre destinée. Ces clés, Abraham les a utilisées. Et nous pouvons les voir transpirer dans sa vie. Dieu ne cherche pas des gens parfaits parce que personne n'est parfait. Nous sommes tous humains avec nos bons côtés et nos mauvais côtés. Avec nos qualités et avec nos défauts. Maintenant, Dieu va utiliser des êtres non parfaits pour réaliser des choses qui viennent du ciel et qu'il veut faire. Accomplir sur cette terre. Et là, bien évidemment, notre part doit être importante. La première chose qu'il vous faut, c'est une vision du Seigneur, c'est-à-dire chercher ce pourquoi vous avez été créé, pourquoi Dieu vous a voulu sur cette terre. Il vous a sauvé, il a sécurisé votre éternité. Mais vous avez des dizaines et des dizaines d'années à vivre ici sur cette terre. Et Dieu a quelque chose qu'il a écrit qu'il veut vous révéler. Donc ça c'est clair que nous devons chercher sa volonté de Dieu, savoir ce que Dieu a pour nous. Ensuite nous avons remarqué qu'une deuxième clé bien sûr c'est l'obéissance. Et l'obéissance c'est fondamental. Avoir un cœur obéissant c'est fondamental. L'obéissance c'est pas quelque chose qui est inné chez l'un et que l'autre n'a pas. Mais c'est quelque chose que nous apprenons. Et nous apprenons souvent cela dans la souffrance. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. La souffrance travaille notre caractère. Ensuite, nous avons vu qu'il nous fallait de la foi. Vous ne pourrez jamais réussir votre destinée sans faire un certain nombre de pas de foi. Et il y a des moments, cette foi que Dieu nous demande n'est pas toujours évidente à avoir, il faut le dire. Surtout quand nous démarrons, Abraham est parti sans savoir où il allait. Après, il s'est retrouvé plusieurs fois dans des moments difficiles, au centre de la volonté de Dieu. Et il a dû avoir la foi. Rappelez-vous qu'Abraham est appelé le père des croyants. Et alors qu'il voyait rien se produire pendant des années et des années, après avoir fait certaines erreurs, il a cru. Et la Bible nous dit que ça lui fut imputé à justice. Et à ce moment-là, Dieu a pu lui donner cet enfant dans sa vieillesse avec Sarah. Ensuite, nous avons vu qu'il faut être quelqu'un de relation.
Vous ne pourrez jamais réussir seul. Vous avez besoin des autres pour accomplir votre vision.
Il
y a des gens que Dieu vous donnera, mais il y a des gens aussi que vous attirez qu'il ne faudra jamais attirer dans votre entourage. Il y a des gens qui vous abandonneront dans les moments difficiles et qui viendront des années plus tard vous dire: ah, on était ensemble. C'est sûr qu'une fois que la guerre est gagnée, c'est facile de dire on était ensemble. Mais les vrais amis, vous les avez là où il y a des pressions. Là où il y a, tout est dur et tout semble perdu d'avance. Être quelqu'un de relation, c'est quelque chose qui est très important. Nous avons vu qu'il faut savoir investir chez les autres. De reconnaître les onctions sur les gens que Dieu a oint. Faire très attention à cela. De savoir s'y prendre avec les païens. D'avoir un cœur pour les gens que vous voulez servir. Et nous avons vu aussi, bien sûr, qu'il faut savoir faire alliance pour avoir la paix. Il faut au maximum savoir comment faire la paix avec les autres dans la mesure où ça dépend de nous. Puis nous avions vu aussi, bien sûr, comment devenir un adorateur, parce qu'il faut être quelqu'un de relation avec Dieu. Tu dois apprendre à cultiver ta relation avec Dieu au fur et à mesure que tu avances dans ta destinée. Abraham était un adorateur et il a su, à des moments cruciaux, s'approcher de Dieu. Je
me
rappelle que nous avons vu des exemples comme Saül et comme Samson.
Qui n'étaient
pas des adorateurs. C'était des gens qui pratiquaient quelque chose à l'extérieur, une religion. Pourtant, ils avaient un appel de Dieu dans leur vie. Pourtant, ils avaient une onction de Dieu. Mais ils ont tous les deux terminé comme des naufragés. Leur vie a été un immense échec et la parole de Dieu nous en rapporte les faits. Imaginez-vous, aimeriez-vous être dans ce livre ici? Que des centaines de millions, voire des milliards d'êtres humains ont lu. Où il y aurait marqué: voici la vie d'un tel. Et vous mettez votre nom. Et vous lisez la fin de l'histoire et c'est une catastrophe. Est-ce que vous auriez aimé ça? Non. Pourtant, Dieu avait donné des chances extraordinaires à ces hommes. Mais ils ont tout gâché. D'autres ont su y faire. Maintenant, nous allons voir une autre clé qui est très importante. Si vous voulez réussir dans votre destinée, il va falloir comprendre une chose. Il va falloir savoir gérer et vous relever de vos erreurs. Ça, souvent, les gens ne le comprennent pas. Nous allons voir que la gestion de nos erreurs et savoir nous relever et utiliser nos erreurs, c'est absolument fondamental pour pouvoir marcher avec Dieu et réussir avec Dieu. Celui qui ne fait pas ça et qui ne sait pas faire cela se retrouvera par terre et s'écartera, se disqualifiera lui-même de sa destinée. Notre destinée est une course. C'est un marathon qui est fait d'une succession d'étapes. Et nous ne sommes pas parfaits. Donc, de toute façon, obligatoirement, nous allons faire des erreurs. Les chrétiens font des erreurs. Les serviteurs de Dieu font des erreurs. Et chacun fait des erreurs plus ou moins graves. Les erreurs sont inévitables. Abraham a fait des erreurs qui ont failli lui coûter toute sa destinée, mais il a su s'en relever. Nous verrons qu'il y a d'autres personnes qui ont fait des erreurs et qui ont su s'en relever, et nous allons voir comment faire pour gérer nos erreurs, pour savoir nous relever nos erreurs et pour savoir utiliser nos erreurs, non pas pour que ça devienne des pierres d'achoppement, mais
mais qu'elle devienne des marche-pieds pour que nous puissions aller plus haut dans notre destinée. Ça, il va falloir que vous appreniez ce principe dans votre vie. C'est un principe qui est très difficile à appliquer, mais c'est un principe qui est extrêmement puissant. Si vous arrivez à comprendre que de vos erreurs, vous pouvez en tirer le meilleur pour voir Dieu accélérer votre destinée, vous allez savoir réellement comment Dieu agit. Ça va vous aider énormément. Par contre, si vous ne savez pas gérer vos erreurs, si vous perdurez à faire le même type d'erreur, alors au bout d'un moment, vous allez vous retrouver complètement stoppé dans votre destinée. Vous allez soit complètement découragé, pensez que Dieu ne vous aime plus, pensez que Dieu vous a rejeté, ou alors vous allez vous enfoncer tellement dans le péché que vous allez rétrograder, et les derniers jours de votre vie, vous allez dire sur votre lit de mort la chose suivante: je regrette, mais c'est trop tard. Que personne ici ne se paye le luxe de pouvoir dire de telles paroles sur son lit de mort. Ne vous permettez jamais de penser qu'un jour ça pourra vous arriver. Des erreurs, nous en faisons tous. Abraham en a fait. Deux fois, il a raconté une demi-vérité et un demi-mensonge à propos de sa femme. Nous l'avons vu. Il y a des moments difficiles dans Genèse chapitre 12. Il est là, il y a une famine dans le Pays de Canaan. Il descend en Égypte. Et il a failli perdre sa femme. Et c'est au travers d'elle que la promesse allait être réalisée. Ensuite, nous savons l'erreur la plus tragique qu'il va faire, c'est au chapitre 16. Le temps passait, il ne voyait pas sa promesse se réaliser. Alors il va faire comme beaucoup de gens. Il va vouloir réaliser sa promesse par ses propres forces. Il va se laisser influencer. L'homme est quelqu'un de très impatient. Et Abraham va faire une erreur extrêmement grave. Vous savez, la chair aura un terrain où le diable essaiera de faire quelque chose sur vous. Dans le domaine de vos promesses. Abraham, ses promesses, c'était quoi? Une descendance. C'était sa plus grande promesse. Au travers de laquelle il y aurait un peuple naturel, le peuple d'Israël, qui allait naître. Et aussi l'Église. Le Messie est venu de la semence d'Abraham. Donc tout allait tourner autour du fait donc d'Abraham et entre autres de sa sexualité, il faut le dire. Il est là. D'abord, il fait une erreur et sa femme a failli mourir. Et Dieu avait fait une promesse à Abraham et Sarah. Donc si Sarah avait été tuée tout au début en Égypte, ou que lui avait été tué, ou que le pharaon avait couché avec sa aurait couché avec sa femme, la promesse était finie. C'était terminé, il était disqualifié. Dieu va agir surnaturellement. Sa femme va être épargnée, mais il va sortir d'Égypte, nous l'avons vu au chapitre 13, la tête basse. Une erreur tragique. Après, sa femme va l'influencer au chapitre 16. Et Sarah va lui dire: bon, bah écoute, hein, apparemment, on n'a pas d'enfant. Donc vraiment, eh bien, il va falloir que on trouve quelque chose, on trouve un autre moyen d'avoir des enfants. Juste avant, au chapitre 15, vous pourrez lire qu'Abraham était un peu découragé. Il va dire, chapitre 15, verset 2, Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas.
Abraham va dire:
yatoranya urugo rwanje akaba ari Eliezeri umunyadamasiko.
Verset 4 il dit mais l'Éternel lui adressa la parole et dit ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais c'est bien celui qui sortira de tes entrailles.
Ngomase jambo gihora yongera kuza kuri we rityose wazotora ni vyawe ariko uzova mu karakawe niwe azobitora.
Et Dieu lui refait des promesses.
Imani muha amasezerano.
Il lui dit non c'est bien celui qui va sortir de tes entrailles, c'est-à-dire entre toi et Sarah.
Iramubwira iti uzovyara wewe na Sarah muzovyara niwe azova.
Sarah vieillissait, elle ne pouvait plus avoir d'enfants.
Ariko Sarah ariko arakura ntabana aragishobora
kuronka. Abraham était avancé en âge.
Abraham nawe yari kwarakura mu myaka.
Et Sarah
Mais Sarah
ne supportait plus cette situation.
Donc
elle va faire des pressions sur
Abraham.
Et elle va faire des pressions qui allaient parfaitement avec la culture de l'époque. Dans la culture de l'époque. C'est pour ça que quand vous lisez la Genèse, il vous faut quand même un minimum d'arrière-plan culturel pour bien comprendre ce qui se passait ici. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Sarah va lui suggérer quelque chose qui était une coutume païenne de l'époque. Sarah va lui suggérer de faire comme la coutume de l'époque. Dieu lui avait dit non, c'est au travers de toi et Sarah que la promesse va s'accomplir. Rappelez-vous, eux ils n'avaient pas la parole écrite, ils marchaient seulement sur la connaissance révélée. Nous avons beaucoup plus de choses sur la volonté de Dieu, nous connaissons la volonté de Dieu. Eux, ils marchaient par révélation.
Rappelez-vous
qu'Abraham était prophète. Mais c'était aussi un homme. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Sarah va lui suggérer le truc le plus culturel du coin. On a même retrouvé des écrits, des tablettes à l'époque. Ils écrivaient sur des tablettes de pierre. Où il était de coutume à l'époque. Dans cette région.
Qu'à
partir du moment où un homme et une femme étaient mariés, s'ils n'avaient pas d'enfants, l'homme pouvait avoir des enfants au travers de la servante. Et Abraham était influencé par sa femme était influencée par la culture. Et Abraham va y aller et il va faire une erreur immense. Il va y avoir Ismaël qui va naître. Et croyez-moi, Ismaël, c'était la plus grande erreur d'Abraham. Si vous n'en êtes pas convaincu, ouvrez les journaux télévisés. C'est encore la guerre entre Israël et les descendants d'Ismaël. C'était une arme que l'ennemi a utilisée contre Israël. Imaginez-vous l'erreur d'un homme qui a autant de conséquences. Vous allez découvrir une chose. Plus les promesses que vous avez sont grandes, plus les erreurs que vous faites ont une portée importante. Je le répète. Plus vos promesses sont importantes, plus les erreurs que vous allez faire sur le parcours vont avoir des conséquences gigantesques. Si vous
n'êtes
pas convaincu, regardez par exemple les prophètes de l'Ancien Testament. Quand ils faisaient une erreur, Dieu les jugeait très sévèrement. Parce qu'ils devaient donner fidèlement ce que le Seigneur leur disait de dire. Ils devaient faire exactement ce que le Seigneur leur demandait. Je pourrais vous donner exemple sur exemple sur exemple sur exemple. Plus vos promesses sont importantes, plus les erreurs que vous allez faire vont avoir une portée importante dans le temps. En d'autres mots, ça va vous coûter très cher. Donc nous devons faire très attention. Abraham fera encore une erreur. Il va recommencer l'histoire quand il va être proche d'Abimelech. Il ne va pas comprendre que le mieux serait été de faire une alliance avec lui. Et ce qu'il va faire, ni plus ni moins, c'est qu'il va encore faire la même chose avec sa, comment dire, avec sa femme en disant que c'est sa sœur. Vous trouverez encore cette même erreur qu'il avait faite au chapitre 13, vous la trouverez au chapitre 20. Donc Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits.
Il
sait que nous allons faire des erreurs dans les différents domaines où il nous a fait des promesses.
Il
sait qu'il y aura des moments difficiles dans notre vie.
Il sait qu'il
y aura des tentations insupportables par rapport au temps devant les promesses que nous ne voyons pas s'accomplir.
Et
il sait que nous ferons des erreurs. Maintenant, faire des erreurs, c'est le lot de tous les êtres humains. Et croyez-moi, certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, moi pour l'instant, je n'ai pas vraiment fait d'erreur. Oui, mais un jour, tu en feras. Dis à ton voisin, tu en feras. Rassure-le. Le parcours de monsieur, de frère parfait et de sœur parfaite, ça n'existe pas. Par contre, c'est pas l'erreur qui est la plus importante. Bien qu'il faut éviter de faire des erreurs. Il faut éviter de se mettre dans le péché. Il faut faire très attention à cela. Mais ça, ce qui est très important, c'est la façon dont tu vas gérer cette erreur. Ça, c'est le plus important. Parce que tu peux vivre des moments très difficiles où il peut t'arriver de craquer. Où tu es tellement sous pression que tu craques parce que ton caractère n'est pas encore vraiment sanctifié.
Et
n'importe qui dans ce monde, ça lui est arrivé. Maintenant, il va falloir que tu fasses une chose. C'est savoir gérer cette erreur. La première chose que tu as à savoir, c'est marqué dans Romains 11, verset 29. Ça, c'est quelque chose que tu dois découvrir. Romains 11, verset 29. Il est dit, car Dieu ne se repent pas de son appel et de ses dons. Dieu ne se repent pas de son appel et de ses dons. Ça veut dire que ce qu'il t'a dit dans les moments les plus euphoriques où tu as reçu cette révélation de ta destinée, il n'est pas là pour te dire un jour, non, ce que je t'ai dit là, jamais, maintenant, je ne suis plus d'accord avec ça, j'enlève tout. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. C'est toujours sur toi. Tu peux avoir fait des erreurs tragiques, graves. Cet appel est toujours sur toi. C'est une bonne nouvelle. Mais par rapport à cette bonne nouvelle, il va falloir que tu aies une certaine attitude. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, c'est vrai. Mais Dieu aussi est un Dieu qui avance. Ça veut dire que si toi, au bout d'un moment, tu te mets à constamment faire des gaffes, des erreurs, tu prends des directions qui ne sont pas les directions de Dieu et tu recommences et recommences et recommences. Dieu veut faire quelque chose au travers de toi pour bénir la race humaine. Si tu persévères, alors que c'est toi qui as cet appel, Dieu choisira au bout d'un moment et suscitera quelqu'un d'autre. Parce qu'il est en train de t'attendre et ça commence à durer. Dieu ne peut pas priver de bénédiction les autres parce que toi, tu perdures dans des erreurs. Amen.
Amen.
Et je vais vous montrer ça dans l'Écriture. Je vais vous montrer plusieurs exemples de personnages bibliques qui ont fait des erreurs. Certains se sont relevés de leurs erreurs et d'autres ont perduré dans leurs erreurs à un tel point que Dieu a dû susciter quelqu'un d'autre. Donc il est clair d'une chose, c'est que nous faisons tous des erreurs. Maintenant l'important, c'est de savoir comment gérer ces erreurs. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec nos erreurs. Et comment nous allons nous relever de nos erreurs. Et pour cela, il faut une révélation de ce que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ça veut dire que si tu es complètement par terre aujourd'hui, ce que Dieu t'a dit est encore valable. Ce que Dieu t'a dit est encore valable. Dieu n'a pas changé sa pensée. Ta destinée est toujours écrite dans le ciel. Dieu n'a pas pris la feuille de ta destinée en disant maintenant on va tout arracher, c'est terminé. Non, tant que tu es en vie, il y a encore un espoir pour ce que tu puisses remplir ta destinée. Maintenant, tout va dépendre comment tu vas te comporter après ton erreur. Mais ne pense jamais que c'est foutu. J'ai rencontré dans ma vie spirituelle des gens comme ça. Des gens qui avaient de très belles promesses. Des gens qui avaient des dons exceptionnels. Et j'en ai vu un certain nombre, et pas des moindres. Parce qu'ils ont fait des erreurs. Et ils ne se sont jamais pardonnés à eux-mêmes. Et ils ont dit, c'est foutu. Ils se sont dit, c'est terminé. Je ne ferai plus cela pour le Seigneur, je ne le servirai jamais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un autre chemin. Ils ont orienté leur vie complètement différemment. Certains ne vont même plus dans des églises depuis des dizaines et des dizaines d'années.
Bon,
ils prient, ils s'intéressent à droite, à gauche. Mais quand on voyait l'avenir de ces personnes-là, ça fait très mal de voir que des gens ont réussi à être convaincus par le diable. Parce que ça, c'est un mensonge du diable.
Hein.
Satan te dira après une erreur, tu es foutu. Jamais Dieu ne pourra plus jamais t'utiliser. Jamais Dieu ne fera ce qu'il t'a dit. Et à ce moment-là, ce que tu fais toi-même, c'est que tu es tellement découragé que tu vis comme quelqu'un qui est blessé. Tu te mets à part. Et toi-même, alors que Dieu enverra même des gens pour te dire non, Dieu veut te donner une autre chance. Dieu veut ça pour toi et tu le sais. Tu diras non, c'est terminé. Tu as été dégoûté. Tu te dis non, c'est le plus possible. Non, le Seigneur ne fera plus. Et à ce moment-là, tu te disqualifies toi-même. C'est celui qui est sur la route du marathon et qui au bout d'un moment abandonne. Il abandonne dans son marathon. En fait, il se disqualifie lui-même parce qu'il est découragé, parce qu'il a vu qu'il est tombé. Après être tombé, il y a toujours de l'espoir. Dieu te relèvera. Mais pour cela, il faut que tu aies l'attitude. Mais ne pense jamais ce mensonge. N'accepte jamais ce mensonge. Que tout est fini, que Dieu ne te donnera jamais une autre chance. Non, Dieu te donnera une autre chance. Parce que Dieu n'est pas le Dieu d'une seule chance seulement. Dieu est le Dieu de la deuxième chance, de la troisième, de la xème s'il le faut. Jusqu'à temps que tu puisses te relever. Il choisira de te relever s'il le faut. Mais pour cela, tu dois être dans une position où tu peux être relevé par Dieu. Et cette position, nous allons en parler. La première chose, une fois que tu as réalisé que Dieu veut te donner une deuxième chance. Une deuxième chance. Un exemple de deuxième chance, c'est Moïse. Moïse, c'était un homme qui avait un appel extraordinaire sur lui. Ça brûlait en lui. Alors que lui était pratiquement à la tête de l'Égypte, il était deux ou troisième d'Égypte. Dieu avait changé sa destinée sans que Moïse ait une part à jouer au départ. Il a été récupéré par la princesse d'Égypte en tant que petit enfant mâle hébreu qui devait être tué. Et d'un seul coup, il s'est retrouvé à être élevé à la cour de Pharaon. Qu'est-ce que Moïse avait fait pour ça?
Rien.
Il avait les bonnes circonstances. Mais Dieu avait un plan par ce miracle. La destinée de Moïse, c'était qu'il devienne le grand libérateur de l'oppresseur. Et Moïse, à chaque fois qu'il voyait les Israélites sous l'oppression des soldats égyptiens, il y avait quelque chose dans son cœur qui lui faisait mal. Quelque chose qui lui disait non. Un jour, tu vas libérer ce peuple. Un jour tu verras ce peuple qui sera libre. Et Moïse était sur son char. Et un jour, il voit un soldat égyptien frappait un hébreu. Et monsieur, grand Moïse, avec l'appel de Dieu, il commence à attraper l'égyptien. La Bible nous dit qu'il va regarder à droite ou à gauche pour voir si personne était autour de lui. Et tout ce qu'il avait en lui va se déverser sur cet Égyptien. Il va le tuer. Et il va perdre sa chance. Dieu voulait agir autrement. Mais Moïse a voulu réaliser. Et souvent, une erreur que nous faisons. Ça, c'est l'erreur la plus courante que les êtres humains qui ont un appel font. C'est de vouloir réaliser avec leur chair l'appel que Dieu a mis sur eux. Ceux qui veulent absolument réaliser à un moment parce qu'ils sont impatients de voir Dieu agir dans leur vie. Ceux qui veulent réaliser l'appel de Dieu par leur propre chair, réaliser les promesses de Dieu. Abraham a fait Ismaël parce qu'il voulait réaliser les promesses de Dieu par sa chair. Moïse a tué l'Égyptien et s'est disqualifié de sa première chance parce qu'il voulait réaliser lui-même l'appel qui brûlait en lui. Ne faites jamais cela. Même si à l'intérieur de vous c'est en train de bouillir, ne vous lancez jamais dans la chair à vouloir réaliser ce que Dieu veut faire au travers de vous. Quand l'homme dit je suis prêt Seigneur, je veux y aller, je vais foncer, c'est là où il n'est pas prêt. C'est là où il n'est pas prêt. Par contre, quand l'homme dit Seigneur, non, moi ces trucs là j'en veux plus, tu sais Seigneur, moi je suis pas prêt, je suis pas assez qualifié, ça veut dire que l'homme à ce moment là évite de lui-même. Et Dieu ne peut qu'utiliser des canaux qui sont vides de même. Lorsqu'un tuyau est bouché, nous l'expérimentons tous dans nos salles de bain ou autres. Lorsqu'un tuyau est bouché, le liquide, l'eau ne peut plus passer. C'est la même chose. Lorsque tu es plein de toi-même, Dieu ne peut pas t'utiliser. Il faut que tu te vides de toi-même. Et parfois, en faisant des erreurs, ça nous fait perdre nos illusions sur nous-mêmes. Ça écrase notre orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Et l'humilité, c'est un trait de caractère qui se travaille souvent alors que nous pensons être le meilleur et être à la hauteur de ce que Dieu nous demande. Et d'un seul coup, paf, tu fais l'erreur. Et tu te retrouves par terre. Et là, tu ne comprends plus, tu es confus. Moïse a été confus. Et Dieu soit béni. Dieu est le Dieu de la deuxième et de la troisième et de la Moïse a perdu 40 ans de sa vie. Nos erreurs ont des conséquences. La plupart du temps, elles ont d'abord des conséquences sur le temps. Ce sont pendant des années où nous allons nous retrouver dans le désert, à tourner en rond, à avoir ce rêve qui est encore en nous, mais il n'est pas devenu réalité. Et ça nous fait souffrir. Le temps. Mais il y a aussi les relations que vous allez perdre. Quand tu fais des erreurs importantes, tu perds beaucoup de relations. Et rappelez-vous que les relations, c'est une clé pour réussir. Tu perdras souvent aussi beaucoup d'argent. Tu perdras ta réputation. Tu perdras beaucoup de choses. Oui, tu seras humilié. Et il y a des gens qui n'acceptent pas d'être humiliés. Et c'est là où ils ne peuvent pas entrer dans leur deuxième chance. Ils n'acceptent pas d'être humiliés. Et quand tu es humilié, tu dois faire une chose. Tu dois comprendre pourquoi tu as fait une erreur. Et ça doit t'amener à une vraie repentance. Si tu gères tes erreurs en disant Bon, ben, c'est pas grave. De toute façon, ça nous arrive à tous. Le pasteur l'a dit d'ailleurs.
Je
n'ai pas dit que les erreurs c'était normal et qu'on ne devait pas trop s'en occuper. J'ai dit que c'est sûr que ça arrive à tout le monde. Parce que ça doit nous aider à aller plus haut et à nous remettre en question. Nos erreurs doivent être des instruments de sanctification. Non pas des instruments de destruction. Nos erreurs doivent être des instruments de sanctification. C'est-à-dire de nettoyage de ce qui ne va pas dans nos vies, de nos attitudes, de nos mentalités, de tout ce qui est encore mauvais dans nos vies. Mais en même temps, la sanctification, je vous rappelle, l'autre volet, c'est que ça doit nous amener une nouvelle révélation de Dieu, une approche de Dieu. Une erreur ne doit pas t'amener à la destruction. Et pour que ça ne t'amène pas à la destruction, ça va dépendre de ton attitude. Par rapport à la gestion de cette erreur. La première chose, c'est que tu dois savoir te repentir, savoir pourquoi tu as fait cette erreur.
Chercher
pourquoi tu t'es trompé. Pourquoi tu es tombé. Parce que si tu es tombé, il y a une raison, ça ne s'est pas passé par hasard. Et la chose dont tu dois te débarrasser, c'est de trouver des excuses, de blâmer les autres pour tes erreurs. Parce que si tu veux que Dieu te donne une deuxième chance, tu ne peux pas blâmer les autres pour tes erreurs. Tu n'auras jamais de deuxième chance de la part de Dieu. Si tu es en train de dire, j'ai fait ça parce qu'un tel, parce que mon mari, parce que ma femme, parce que mes amis, parce que mon pasteur, parce que. Non.
Oh, yeah.
Si tu veux une deuxième chance, c'est de dire sincèrement à Dieu, c'est ma faute. C'est ma faute. Et j'en assumerai les conséquences. C'est moi qui ai fait ça. Je peux me trouver mille et une excuses, je n'accepte pas ces excuses. C'est moi qui suis tombé. C'est mon erreur. Et Seigneur, j'emporterai toutes les conséquences. Seigneur, j'accepte toutes les conséquences de mon erreur. Si tu veux que Dieu te donne une deuxième chance, il faut absolument que tu assumes les conséquences de tes erreurs. Si tu es tout le temps en train de dire que c'est la faute de ci, la faute de ça, etc., etc., ça veut dire que tu n'es pas capable. Pas dans la position de donner un terrain à Dieu pour que tu puisses avoir une deuxième chance. Moïse, quand Dieu va se révéler à lui dans l'expérience du buisson ardent, Moïse il disait une chose. Tu sais, ils vont jamais me croire. Je vais dire que c'est qui que j'ai rencontré dans le désert. Non, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Moi, tu sais, je bégaye.
Et
d'ailleurs, la Bible nous dit que Moïse bégaye. Le grand Moïse, grand libérateur, prêt à tuer l'Égyptien. 40 ans plus tard, il avait nettoyé tous les jours jusqu'à la moindre molécule de trace de ce qu'il y avait dans son tuyau. Moïse était vide de lui-même. Il ne comptait plus sur ses forces. Il savait que de toute façon, ce vieux rêve de 40, 50 ans, 60
ans,
pour lui, il avait déjà donné une fois, il ne voulait pas redonner une deuxième fois. Oui, la première fois, il l'avait donné dans la chair. Et il avait récolté la chair. Mais cette deuxième fois, quand Dieu le rappelle, il était complètement mort à lui-même. Il s'était vraiment repenti de cette erreur. Il s'était vraiment repenti de cette erreur. Et c'est là où Dieu a pu faire de lui le plus grand leader de l'Ancien Testament. Il a utilisé cet homme d'une façon incroyable. Et Moïse, il obéissait à Dieu. Moïse savait qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Il se présentait devant Pharaon et Dieu agissait. Tout ce que le Seigneur disait à Moïse, il agissait. Il le faisait. Il n'était plus le Moïse de 40 ans plus tôt. Il avait envie de faire de lui-même les choses de Dieu. Il était un simple instrument où la puissance de Dieu coulait au travers de lui. Moïse a su saisir sa deuxième chance. Parce que Moïse a appris sérieusement à se repentir. Donc la première chose que vous devez faire, c'est vous repentir de votre erreur. De comprendre pourquoi vous vous êtes trompé. D'assumer les conséquences de notre péché. Ça, c'est la deuxième chose que nous avons vue. Ensuite, il y a clairement une chose qui doit se produire pour redémarrer, pour avoir cette deuxième chance. C'est avoir une fraîche révélation de l'amour de Dieu dans nos vies. Ça, c'est quelque chose qui va avec et qui vient souvent à la suite d'une vraie repentance. Parce que si tu veux repartir, il te faut une nouvelle révélation de Dieu et de son amour. C'est ce qui s'est passé pour Moïse. Moïse a reçu cette nouvelle révélation. Et il a été complètement transformé. Dieu a mis son onction sur lui. Et quand il a redémarré dans sa deuxième chance, ça a démarré comme ça. Ça a été absolument extraordinaire. Et il a vécu dans le surnaturel. Moïse recevait tous les jours des paroles audibles de Dieu. Il voyait tous les jours des miracles. Il voyait constamment les choses. Un homme qui n'a pas su saisir sa deuxième chance, c'est le roi Saül. Le roi Saül, je le prends souvent comme exemple de leader qui a chuté. Parce qu'en fait, il va faire des erreurs tragiques. Et il ne va jamais gérer ses erreurs. Cet homme a été choisi d'une façon surnaturelle. Il était rien. Dieu lui a fait une faveur exceptionnelle. Vous savez, c'est étonnant, mais l'appel de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Dieu, des fois, vous prend des gens. Mais moi, Seigneur, je suis meilleur que lui. Pourquoi tu ne me prends pas? Vous avez jamais raisonné comme ça? Non, je sais que vous êtes tous des beaux anges ici. Des fois, on voit des gens que Dieu utilise puissamment. On dit, mais Seigneur, pourquoi tu l'utilises comme ça? Le choix de Dieu ne se discute pas. C'est lui qui choisit. C'est l'homme qui accepte, qui obéit et qui marche avec lui. De toute façon, le don, tu ne peux pas dire « Ah, j'ai été tellement bon que j'ai eu ce don-là de Dieu. » Que tu prêches, que tu pries pour des gens et qu'ils sont guéris. Que tu sois doué dans le business. Que tu aies une voix à faire chanter les anges. Que les premières fois où tu as pris un instrument, tu... Que t'es toutes sortes de qualités. Qu'est-ce que tu as fait pour ça? Rien.
Rien.
Rien. Qu'est-ce que Moïse avait fait pour naître, entre guillemets, pour être élevé dans la famille de Pharaon? Et pourtant, la Bible nous dit qu'il a été éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc, où que tu sois, quoi que tu aies comme don, ou quoi que tu aies comme arrière-plan ou éducation, ne viens pas t'en vanter. Si tu as un don de prophétie, mais c'est un don. Littéralement, dans le grec, c'est charismata. Ça veut dire don de grâce, c'est-à-dire don En plus, la Bible rajoute, hein, on a l'impression qu'elle parle de don vraiment donné gratuitement. Elle insiste. Don de grâce, don qui est donné par la grâce. Déjà, en général, un don, c'est tu n'as pas mérité, on te fait un cadeau. Un don, c'est un cadeau. Mais là, Dieu insiste. Il dit, c'est un cadeau fait par la grâce. Faveur imméritée. Un homme qui n'a pas su saisir sa deuxième chance, Saül. Dieu lui fait un don exceptionnel, il lui dit, voilà, tu seras le chef de mon peuple. Il se donne toutes les excuses en disant, mais moi qui suis, je suis de la plus petite tribu, ma famille c'est pas une grande famille, etc.
etc.
Le jour où le peuple voulait voir Saül, il s'était planqué derrière des bagages. Pas très courageux, le monsieur. Puis Dieu lui a donné un homme. Un homme qui était fort. Très fort. Très puissant. Le prophète Samuel. Samuel, c'était un leader extrêmement puissant. Samuel, quand il disait à Israël, repentez-vous, agenouillez-vous devant l'Éternel, nettoyez vos idoles. Israël obéissait. C'est un homme qui, quand il parlait, il avait une influence extraordinaire sur Israël. C'était un homme extrêmement, un prophète extrêmement respecté dans tout le peuple d'Israël. Un homme très fort, très puissant dans son leadership. Et Saül, qui n'avait aucune connaissance en leadership, avait la grâce à côté de lui d'avoir un prophète de Dieu. Ne méprise pas ce que Dieu te donne et met à côté de toi et au-dessus de toi. Fais attention à cela. Il y a beaucoup de destinées qui sont gâchées à cause de cela. Ou des fois Dieu nous donne des mentors. Il nous donne des personnes qui nous aident. Et nous les méprisons. Parce que nous pensons que nous pouvons faire mieux qu'eux. Nous sommes là en train de parler des choses sur eux. Alors que c'est eux qui nous ont sortis de partout. Des fois, il y a des businessmen qui ont fait ça pour d'autres businessmen. Ils ont pris quelqu'un qui était rien. Ils les ont amenés dans les hauteurs. Et le jour où l'autre businessman est monté dans les hauteurs, il a fait. Alors qu'il doit tout à l'autre. C'est minable. 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 Saül avait ce genre d'attitude. Saül avait à côté de lui un homme de Dieu. Puissamment utilisé. Qui lui expliquait ce qu'il devait faire. Saül avait juste quelques petits trucs à faire. À obéir. Et au chapitre 13 de 1 Samuel, vous découvrirez que, en fait, Saül devait remporter une bataille. Il va la remporter. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il doit attendre le prophète pour offrir le sacrifice. Parce que Saül était roi. Il n'était pas sacrificateur. Et Samuel tarde à arriver. Le peuple commençait un peu à se décourager. De voir que le prophète n'arrivait pas. Et Saül va faire une immense erreur. Vouloir fonctionner là où Dieu ne l'a pas appelé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va offrir le sacrifice. Verset 8, il est dit, il attendit 7 jours, 1 Samuel 13, jusqu'au moment fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal, et le peuple se disséminait loin de lui. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de communion. Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici que Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel lui dit, qu'as-tu fait, Saül ?
Nuko Sawuli amara iminsi indwi arorere Samweli nkuko yari yamuhaye indagano ariko abantu bari bagiye biyonjorora bamuta Samweli ataraza igerugare Sawuli nuko niko kuvuga ati nimunzanire hano ikimaze cyo kosa nibimaze ibyishimwe nuko yose ico kimaze agiheza kucosa Samweli arashika maze Sawuli arasoka aja kumusanganira ngo amuramutse maze Samweli aramubaza ati vyo wakoze nibiki
Et alors Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se disséminait loin de moi, que tu n'arrivais pas au moment fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre. Je me suis dit, moi, mes mentalités, je pensais que, j'ai fait que, donc j'ai bien fait. Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. Oh, le pauvre petit garçon. Et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël.
Maze Samuel abwira Sauli ati wakoze icubupfu iyo wiyumvira icagezwe uhoraho imana yawe yakugeze uhoraho nawe yokomeje ubwami bwawe ibihe byose mu Bisirayeli.
Il a loupé la chance de sa vie ici.
Urumva novuga yarahushije ivyo imana yari yamuhamagariye kubamo.
Le problème de Saül.
Ingorane ya Sauli nyamukuru.
Saül était comme chacun d'entre nous.
Sauli yari ameze nkawe nanje.
Il avait la capacité de faire des erreurs.
Yari afise ubabasha bwo gukora amakosa.
Il a fait cette erreur.
Hanyuma arakora iryo kosa.
Le problème, c'est l'attitude derrière l'erreur. L'attitude derrière l'erreur. La gestion de nos erreurs. L'important, c'est de savoir ce que vous faites avec vos erreurs. Comment vous allez gérer vos erreurs. Ça, c'est très important pour notre vie. Saül a perdu sa chance ce jour-là. Mais Dieu est bon, il va lui redonner une deuxième chance. On n'a pas le temps de lire ça, mais c'est au chapitre 15. Dieu avait dit à Saül, tu vas éliminer tous les Amalécites. C'était une parole que Dieu avait prononcée dans Deutéronome. Que les Amalécites seraient éradiqués dessus de la terre. Pour différentes raisons. Et Saül devait faire cela. Dieu avait dit, vous dévouerez par interdit ce peuple. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là seront exterminées. Et vous détruirez tous leurs biens. Et Saül, encore une fois, alors qu'il avait une deuxième chance. Au chapitre 15, Dieu va lui donner une deuxième chance. Et il va encore plus s'endurcir. Ça va très mal se terminer. Dieu va dire au travers de Samuel, avec toi, c'est ingérable. Vous savez, Dieu nous donne des chances. Mais il y a un moment, parce qu'il veut bénir des gens. Dieu, au bout d'un moment, peut choisir quelqu'un d'autre pour faire le boulot parce que tu ne fais pas le boulot. Ça ne veut pas dire que l'appel n'est toujours pas là. Mais Dieu peut susciter quelqu'un d'autre. Mais là, Dieu va susciter David à ce moment-là. Mais David n'est pas du tout prêt. Saül peut encore régner. Et il va continuer à régner pendant 40 ans. Et cet homme va s'endurcir dans sa deuxième chance.
Et
croyez-moi, quand il va louper sa deuxième chance,
il
va se permettre de déchirer l'habit du prophète. Alors que le prophète était en train de le réprimander, il s'est encore excusé. Ne vous excusez jamais pour vos erreurs. Ne demandez pas jamais pardon pour vos erreurs. Dis à ton voisin, ne t'excuse jamais pour tes erreurs. Et dis-lui bien maintenant, tu vas comprendre la suite de la phrase. Ne demande jamais pardon pour tes erreurs. Dis-lui. Mais dis-lui, repens-toi de tes erreurs. Il y a une grande différence. Saül s'excusait.
Sauli yari regura.
C'est pas ça qui lui a permis d'entrer dans sa deuxième chance, ni dans sa troisième. Il s'excusait. Il y en a d'autres parfois qui demandent pardon, mais qui recommencent d'une façon récurrente. C'est-à-dire régulièrement, ils recommencent à faire la même erreur.
Ça
sera Samson.
Samson.
Et Samson a gâché sa destinée.
Samson,
mais nous continuerons sur ce sujet passionnant un peu plus tard. En attendant, vous allez tous fermer vos yeux et on va prier ensemble. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que tu nous apprends au travers de ta parole.
Dieu
Seigneur, nous sommes tous des hommes. Et que Seigneur, nous faisons tous des erreurs. Mais Père, je prie pour que nous puissions mieux comprendre que tu veux que nous apprenions à gérer nos erreurs. Père, je prie pour que tu nous aides dans ce domaine-là. Parce que nous ne devons pas nous trouver des excuses ou demander un peu de pardon au bout des lèvres. Mais nous voulons vraiment nous repentir de nos erreurs. C'est pourquoi je prie pour chaque personne ici. Que celui qui est découragé, qui ne pensait que Seigneur, tu ne pourrais plus jamais rien faire avec lui,
puisse
être puissamment encouragé et savoir que tu veux lui donner une deuxième chance. Que celui, Seigneur, qui a eu sa chance et qui l'a gâché, qu'il puisse aussi découvrir ton amour, Seigneur, mais ne pas jouer avec ton amour. Afin, Père Céleste, qu'il apprenne à gérer ses erreurs. Père, je te remercie parce que tu veux nous apprendre à gérer nos erreurs. Pour que nous apprenions à aller bien plus haut. Pour que tu sois glorifié, Seigneur. Parce que tu veux te glorifier, Seigneur. Tu veux nous aider à grandir. Tu veux réaliser ce que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur. Parce que tu nous aimes. Parce que, Seigneur, tu n'en as pas fini avec nous. Si le diable dit c'est foutu, si le monde dit c'est foutu,
Tu dis
je t'aime et je veux te donner une deuxième chance. Seigneur, je te remercie pour autant d'amour pour nous. Merci parce que tu nous aides, Seigneur, et tu nous fais comprendre ces principes.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.